France Inter, franceinter.com.
L'écriture empêche que ce qu'ont fait les hommes s'efface de la mémoire. Hérodote. Ans d'histoire. Tout a commencé il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, lorsque des habitants de Sumer ont commencé à graver des signes sur des tablettes d'argile. Pour la première fois, des hommes exprimaient par écrit ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils voyaient. Cette écriture, dite cunéiforme, car elle se faisait avec des coins, était la première de l'histoire, avant l'apparition des hiéroglyphes égyptiens, des caractères chinois ou de l'écriture des peuples de l'Amérique précolombienne. Sur tous les continents, ces signes représentaient les mêmes choses, des objets ou des idées, et même des sons, comme l'alphabet, inventé 2000 ans plus tard par les Phéniciens et les Grecs. Il fallait, disait Hérodote, que ce qu'ont fait les hommes ne s'efface pas de leur mémoire, et ceci qu'ils font depuis plus de 5000 ans, sur des tablettes d'argile, de la pierre, du papyrus, du parchemin ou du papier, et même en malmenant l'orthographe sur nos ordinateurs et nos téléphones d'aujourd'hui. France Inter, Fabrice Drouel, le 3 janvier 2003.
SMS, short message system, texto pour les intimes, autrement dit pour des millions d'entre nous et surtout pour les jeunes. À titre d'exemple, écoutez cette jeune fille de 14 ans, elle s'appelle Émilie, adepte du texto. Voilà le genre de phrase qu'elle a l'habitude d'écrire.
Donc là, je vais écrire qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances. Donc K-E-S, K-E, t'as T majuscule A, fait F-E accent grave, P-E-N-D-A-N. L, E accent aigu, V, A, K, A, N, C majuscule.
Pour mon cas, c'est la nouvelle technologie, genre les portables et tout, qui me font écrire mal.
Je suis occupé, on va pas écrire occupé, on va écrire O, un Q et un P.
Elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en...
Anne-Marie Christin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeure à Paris 7, responsable du Centre d'études de l'écriture et de l'image et auteur il y a quelques années d'une histoire de l'écriture dont vous étiez venu nous parler, l'écriture dont on vient d'entendre un peu le dernier avatar. Est-ce que le SMS, ce qu'on vient d'entendre, c'est encore ou c'est de l'écriture?
Ben, je crois que c'est un exemple très très intéressant d'une des caractéristiques de l'écriture qui est d'être composée de mélanges. Ce qu'on vient d'entendre nous montre qu'on peut réinventer l'écriture et qu'elle se réinvente en associant différents éléments à la fois sonores et visuels qui composent une phrase ou qui permettent de la retranscrire. Donc il y a une création, une liberté du SMS qui certes est redoutable pour notre orthographe de l'alphabet. Il ne faut pas oublier ce risque, mais si on la prend comme seconde écriture, c'est au contraire la preuve de la richesse et de l'inventivité permanente de l'écriture.
Comment est-ce qu'on peut la définir justement, l'écriture? Est-ce que on peut dire que par exemple le fait d'exprimer ce que l'on voit, comme le faisait les hommes préhistoriques sur les grottes de Lascaux, c'est déjà de l'écriture?
Non, je ne le pense pas. Je pense que l'écriture est vraiment, précisément, à au moins une première date d'apparition, qui est celle de l'écriture sumérienne, une seconde date très proche, qui est celle de l'écriture hiéroglyphique égyptienne, une autre plus tardive, l'écriture chinoise, puis l'écriture maya. Autrement dit, il y a quatre origines de l'écriture au sens propre du terme, qui doit nous servir de repère, qui est le fait qu'une écriture, c'est un métissage, précisément comme ce SMS qu'on venait d'entendre, c'est un métissage d'une communication verbale et d'une communication visuelle. Et ce qui est tout à fait passionnant quand on s'intéresse aux origines de l'écriture, et précisément pour éclairer ces grands systèmes, ces grands premiers systèmes, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a là une création qui est à la fois de leur part d'origine, mais également nécessairement seconde. L'écriture apparaît toujours en second et en combinant par cette espèce de miracle et d'alchimie qui permet de combiner d'une part des éléments d'une communication verbale qui est essentielle à un groupe, à une société, pour sa survie, le maintien de sa langue, mais aussi le maintien de ses histoires. La mythologie, c'est une affaire de communication verbale. Et d'autre part, la communication visuelle, qui est aussi indispensable à une société, mais qui est distincte et qui permet aux hommes d'imaginer qu'ils peuvent communiquer avec le monde qui ne parle pas sa langue, donc les dieux en général.
On dit souvent, Anne-Marie Christin, que c'est pas du tout pour écrire des romans ou des poèmes que les hommes se sont mis à écrire à Sumer il y a plus de 5000 ans, mais plutôt pour des raisons pratiques, par exemple pour la gestion des récoltes, parce que c'est aussi l'émergence des grands états qui ont besoin justement d'écriture, c'est même aussi pour l'organisation de la société, le code d'Hammurabi qui est l'organisation de la justice il y a 4000 ans, c'était aussi pour ça qu'on a écrit. Est-ce que c'est pour des raisons pratiques uniquement ?
Non, je crois qu'on est revenu sur cette hypothèse dans la mesure où on s'est rendu compte par les documents d'archives que l'on a pu retrouver qu'en réalité l'apparition des États était parallèle à cette invention, que d'autre part, ce n'est pas du tout un principe généralisable aux trois grands systèmes d'écriture dont on peut parler de manière sûre. Et puis aussi parce que, précisément en raison de ce métissage dont je viens de parler, il est de plus en plus évident que l'utilité que les hommes ont trouvée à l'écriture, qui leur ont fait inventer l'écriture, parce que ce n'est pas du tout une nécessité. On peut rester dans cet état. Les civilisations orales ont cette complémentarité d'oral et de visuel que je viens de parler.
Il faut rappeler que tout le monde, effectivement, il y a environ 3000 langues, mais à peu près une centaine d'écritures aujourd'hui dans le monde. Effectivement, tous les peuples n'ont pas forcément d'écriture.
Voilà, oui. Non, parce que je voulais revenir justement sur cette utilité qui est ces systèmes d'écriture, et c'est particulièrement vrai pour le chinois, mais aussi pour les deux autres écritures dont on vient de parler, leur utilité est de permettre à la langue des hommes, par un biais visuel, de se diffuser à travers des dialectes, donc de dépasser la barrière des langues dont on parle, d'avoir cette utilité-là de communication à distance.
Alors une utilité, une écriture qui sont un peu le monopole, que ce soit à Sumer ou que ce soit en Égypte, de ce qu'on appelait les scribes, à la fois maîtres de l'écriture et de son enseignement.
Tobar était attiré par ce scribe. Il voulait le rencontrer et surtout apprendre. Son savoir le fascinait. Il savait maintenant pourquoi il était venu. Il voulait écrire. Je vous en prie, lui dit-il, apprenez-moi à écrire sur l'argile. Sarki traitait durement Tobar. Il ne sortait pas, il avait très peu à manger, il n'avait pas le droit de dormir plus de 4 heures par nuit. Alors parfois, il regrettait la vie au village et ses moutons. Tiens, comment écrit-on le mot mouton ?
Imerlu Udu. Udu.
Et c'était l'extrait d'un excellent documentaire de Jacques Malater, Le Sacre de l'Homme, l'homme qui donc découvrait l'écriture à Sumer, puis en Égypte. Et alors, plusieurs formes d'écriture en réalité. Et qu'est-ce qu'il exprime à travers l'écriture, Anne-Marie Christin ? On parle de pictogramme, c'est-à-dire au fond de quelque chose qui représente justement un être, une chose, un animal, ou d'idéogramme, est-ce qu'il représente des idées ?
Oui, alors là, je pense qu'il y a un problème aussi de vocabulaire, tout simplement, à réactualiser. C'est-à-dire que le pictogramme est un terme que nous utilisons qui est en réalité une projection de la conception alphabétique de l'écriture. Nous sommes victimes, nous-mêmes, de l'écriture qui nous empêche de bien percevoir les autres systèmes d'écriture qui sont donc antérieurs, d'où est né l'alphabet, et qui sont vraiment passionnants, et qui sont passionnants par une qualité qui est celle des SMS, et qui est d'être divers. Et pour définir les systèmes, ce qui permet de rapprocher par une définition commune écriture sumérienne, hiéroglyphique et chinoise, c'est le fait très étonnant que ce qu'on appelle l'idéogramme est en réalité à tort, parce que l'idéogramme, c'est une écriture qui renvoie à une langue. Il ne faut pas oublier qu'une écriture, pour qu'on se retrouve dans ces systèmes, se définit par cette dualité. Donc il y a image qui permet de transmettre une langue, mais qui va le faire d'une manière dont nous avons perdu la perception avec l'alphabet. Autrement dit, ce que nous appelons idéogramme, donc, ou hiéroglyphe, c'est la même chose, ce sont des signes qui peuvent prendre plusieurs types de valeurs différentes. Pour vous donner un exemple pris dans notre monde, si vous prenez un mot comme le mot « sot », le mot « sot » a en réalité beaucoup d'homophones, et c'est l'orthographe visuelle qui nous permet de distinguer le sot qu'on porte, le sot que l'on fait, que les petites filles font à la corde,
l'idiot,
etc. Voilà, exactement, voilà. Et donc, or, ce qui se passe avec l'idéogramme, donc quand l'écriture apparaît, vous avez des signes, un hiéroglyphe du sot, si vous voulez, qui, dans sa valeur première, a une valeur de logogramme, donc le sot désigne le sot que l'on porte, mais il peut également, le même dessin, être utilisé pour envoyer à tous les homophones. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fallu 2000 ans pour qu'on déchiffre les hiéroglyphes de nouveau, qu'on accepte qu'on dessine un sceau, que ce soit autre chose. Et une troisième valeur, qui est indissociable des deux autres, et qui est celle de clé, de déterminative, c'est-à-dire vous dessinez votre même hiéroglyphe à côté d'un autre signe, et ça en éclaire la signification, la manière dont on doit le prononcer.
Alors cela jusqu'à l'apparition de l'alphabet, puisque c'est notre système aujourd'hui d'écriture, l'alphabet qui apparaît, vous le dites, avec les Phéniciens, qui est apparu d'ailleurs il y a très longtemps, environ vers 1400.
Oui, effectivement.
Avant le Christ, oui, oui. C'est-à-dire il y a 3400 ans.
Oui, oui, ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a...
Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, l'alphabet ?
Il y a deux étapes à distinguer dans l'alphabet. La première, c'est celle donc, de la création du système par les
Phéniciens.
Pas par les Phéniciens, mais enfin dans un monde de langue sémitique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté que cette dualité d'écriture, qui est vraiment fondamentale, a pour conséquence qu'en fonction de la diversité des langues, de la nature des langues, l'écriture va évoluer, se modifier. Alors, dans le cas de l'écriture sémitique, on la connaissait déjà et par les Égyptiens et par les Mésopotamiens, il y a une évolution du système que je viens de vous définir au niveau du phonogramme qui fait que petit à petit, on arrive non seulement à la syllabe qui a été tout de suite acquise, mais à une simplification graphique qui fait que l'on note une consonne, la première, en tout cas pour ce qui est du proto-sinaïtique, c'est le cas, on note une consonne pour signifier tout un mot. Donc on fait l'économie, ou tout un mot plutôt qu'une syllabe, on fait l'économie de graphique. Puis, alors ici, donc, on a un ensemble de consonnes, les Phéniciens ayant eu l'originalité, enfin, la grande création des Phéniciens, c'est d'être en plus arrivé à limiter à 22 signes cet alphabet, donc, de consonnes, et qu'on dit consonnes sémantiques.
Auxquelles les Grecs vont ajouter des voyelles.
Alors voilà, ils ont ajouté les voyelles, mais c'est en fait une complète métamorphose qu'ils ont réalisée, parce que ils étaient obligés, pour des raisons de langue, on n'en sort pas, de compléter l'alphabet des Phéniciens par des indications grammaticales qui devaient se prononcer, et l'idée leur est venue de créer ce système voyelles-consonnes. Mais la conséquence en a été une métamorphose qui nous a privés de contact avec l'image à partir des Grecs, et qui est qu'il n'a plus été nécessaire pour évaluer le sens d'un mot de regarder son contexte. Et donc, il suffit d'entendre une lettre, d'entendre une syllabe, enfin, pour. Il suffit, et c'est à la fois indispensable et bien, et tout à fait en contradiction avec la lecture. Notre écriture est une écriture qui s'entend pour se comprendre, et c'est la première dans l'histoire.
Écriture donc alphabétique, qui est la nôtre depuis très longtemps, qui a été léguée aux Romains, qui a été léguée aussi aux Arabes, et puis qui est arrivée en Europe occidentale, où ce qui a permis de démocratiser avec le petit nombre de signes qui existent, 26 lettres, hein, alors qu'il y en a 1000 en Chine, 600 dans le cunéiforme, et bien 26 seulement, et qui permet donc de démocratiser l'enseignement, même auprès d'un empereur, Charlemagne, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui a tout fait pour l'apprendre à son empire.
Ces bâtons m'ennuient. Fais-moi des minuscules. J'ai toujours dit, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Que tout le monde s'y mette. On l'appellera l'écriture Caroline. La Caroline. Les centaines de monastères et les 200 évêchés que compte mon empire concentrent toutes les capacités intellectuelles du royaume. Et c'est à eux que je vais confier ce que je considère comme la tâche la plus importante de mon règne. Apprendre à lire et à écrire au plus grand nombre de mes sujets.
Répétez.
C'était l'alphabet de Mozart à l'époque, donc justement où les hiéroglyphes, l'écriture cunéiforme avait disparu depuis longtemps, puisque c'est l'écriture alphabétique qui l'avait emporté. Quelles sont les relations, puisqu'on vient d'entendre dans cet extrait de téléfilm, Charlemagne évoquait la démocratisation, l'enseignement de l'écriture, Anne-Marie Christin?
Oh, je pense que c'est un sujet qui nous permet d'aborder un autre aspect de cette histoire de l'écriture, plus qu'origine de l'écriture, qui est la manière dont les pouvoirs se sont rendus compte que ce système qui était né, qui était apparu pour des besoins de communication, des cultures, d'intégration des cultures, était en fait aussi, par ailleurs, un moyen de diffusion, et de diffusion de la démocratie, mais aussi d'un réel pouvoir et d'une domination politique. Et donc on est là à la croisée de ce qu'il y a de bénéfique et de généreux et de démocratique dans l'écriture, certainement, d'international aussi, ce qui est un grand avantage, mais également de diffusion qui est devenue idéologique, et qui est à l'origine, d'ailleurs, dans l'histoire du monde, de la façon dont certains peuples ont renoncé à telle écriture parce qu'elle portait la marque d'un pouvoir qu'ils ne voulaient plus véhiculer.
Alors justement, une diffusion qui est véhiculée par d'autres moyens que ceux qu'on a évoqués dans la Sumer, ou chez les Égyptiens, ce ne sont plus les scribes, mais ce sont les moines, les copistes qui font cela au Moyen-Âge, et qui le font d'ailleurs sous des supports extrêmement différents, qui vont, à force de progrès, permettre la démocratisation de l'écriture, puisqu'on partait des tablettes d'argile de Sumer pour arriver à la pierre en Égypte, au papyrus aussi en Égypte, le parchemin également employé au Moyen-Âge, et puis le papier. Avec le papier, c'est une révolution avec le papier, et surtout, et qui vient de Chine d'ailleurs, et surtout l'imprimerie. Là, c'est une révolution évidemment dans l'histoire, on n'est plus dans les origines, mais dans l'histoire de l'écriture, Anne-Marie Christin.
Oui, alors je voudrais revenir un petit peu sur le Moyen-Âge, parce que c'est une époque, enfin du moins la fin du Moyen-Âge, autour du XIIIe siècle, où on constate quelque chose de tout à fait intéressant du point de vue de l'histoire de l'alphabet lui-même, et dont on retrouve, avec la diffusion des ordinateurs, l'intérêt, les bénéfices actuellement, qui est que les scribes ont retrouvé l'image. Et ce qu'on voit au Moyen-Âge, qui est très intéressant, c'est le développement des pages glosées, un recours à l'espace pour y répartir l'écriture, également des pages que l'on appelle mosaïquées, où il y a à la fois du texte, de l'image, tout à fait comme nos fenêtres d'ordinateur. Donc on voit ceci émerger comme un besoin de satisfaire une lisibilité perdue, trompé, si vous voulez, au Moyen-Âge. À l'époque de l'imprimerie, alors il se passe une grande révolution pour notre culture, plus grande pour la civilisation occidentale qu'elle ne l'a été chez ses inventeurs, qui sont encore les Chinois, parce que en découvrant l'imprimerie et surtout la typographie, les usagers de l'alphabet ont découvert que leurs lettres pouvaient se voir comme des objets, pouvaient justement retrouver une qualité de signe qu'ils avaient perdu du fait du ductus, du fait du mouvement de la main. Ce qu'ils ont découvert aussi, c'est une valeur qui était encore plus archaïque que l'écriture, on retourne à la préhistoire, ou à l'image en tout cas, qui était le blanc. On a commencé à penser, sinon à concevoir les textes, avec des blancs. Le paragraphe se construit d'abord de la part des typographes, mais ensuite il sera utilisé par Descartes. Les textes philosophiques vont s'articuler en masse et en paragraphe dans une page pour aboutir, à partir du coup de dé de Mallarmé, à une création poétique moderne qui a complètement bouleversé la conception même de la création poétique en Occident.
Tandis qu'on ne parle plus, on ne connaît plus, on a complètement oublié les premières écritures, le cunéiforme dont on parlait tout à l'heure, les hiéroglyphes. Ce qu'il y a d'extraordinaire d'ailleurs, c'est que les écritures, c'est qu'un peu comme les langues, on l'oublie toujours, elles sont mortelles. Il n'y en a qu'une, au fond, d'une certaine manière, qui a survécu, puisqu'elle utilise encore souvent les mêmes caractères que ceux de ses origines il y a 3400 ans, c'est le chinois.
Oui, effectivement, l'écriture chinoise, qui est du type que j'évoquais tout à l'heure, précisément pour la raison aussi que j'évoquais tout à l'heure, qui est que c'est un système d'écriture qui communique visuellement, c'est-à-dire en échappant à la diversité des dialectes et au contraire, en permettant à une culture de pouvoir communiquer, se développer par un système visuel graphique et qui, lui, à la différence de l'alphabet, est un système qui se comprend précisément même verbalement de manière visuelle.
Tandis que les écritures contemporaines du chinois ou un petit peu antérieures, alors ont totalement disparu, et avec elles d'ailleurs l'histoire des peuples qui les utilisaient. Il y a un lien entre l'écriture et l'histoire, ce qu'est Science et Ville rappelle bien de Marie-Christin, c'est-à-dire qu'au fond l'histoire commence avec l'écriture, c'est parce qu'on peut transmettre, faire perdurer une culture qu'on entre dans l'histoire et on sort de la préhistoire. Et c'est ainsi d'ailleurs que, ayant oublié l'écriture des Égyptiens, eh bien on avait oublié l'histoire de l'Égypte jusqu'à ce qu'on la redécouvre au début du XIXe siècle. Et ça, grâce à un homme, Champollion, grâce à une pierre. Il faut peut-être rappeler l'histoire de cette pierre de Rosette qui a permis de retrouver une écriture, une des plus anciennes du monde, qui avait totalement disparu, Anne-Marie-Christin.
Totalement disparue. Non, on avait oublié, on ne savait plus la déchiffrer, mais elle était visible sur les obélisques. Il y a tout de même
J'ai disparu, on en avait oublié le sens.
Voilà, c'est cela, oui. Alors, ce qui s'est passé effectivement, c'est que, à la faveur de la campagne napoléonienne, on a découvert près d'Alexandrie une pierre qui, donc c'était en 1799, sur laquelle se trouvait un décret d'un dernier pharaon grec qui était écrit à la fois en grec, en hiéroglyphes et dans une écriture dérivée des hiéroglyphes, mais qui était la même en réalité, cursive, en démotique.
Qui est en fait qui est comparable au copte, qui est proche du copte.
Oui, enfin, il se trouve que Champollion, précisément par... disons que l'avantage extraordinaire de ce document est qu'il permettait de lire un texte, enfin, initialement, il était lu, un même texte en deux langues différentes, et donc la connaissance du copte qu'avait Champollion lui a permis de faire une comparaison et d'arriver à ce déchiffrement.
On sait qu'il s'agit d'un nom royal, exact. Qu'est-ce que cela t'évoque ?
Ça me fait penser au soleil.
Et si c'était plus qu'un simple symbole? Et si ce hiéroglyphe pouvait se prononcer? Le copte nous aiderait peut-être.
En copte, soleil se dit Ré.
Ce qui rappelle le nom du dieu égyptien Ra. Et je connais celui-ci. Ce double hiéroglyphe représente le sens.
Et celui-ci?
Je ne sais pas. Et si c'était la lettre M? Ramsès. Je tiens mon affaire! Il est temps d'informer le monde. Ceci n'est qu'un début.
Bonne chance, monsieur Champollion.
Alors la découverte de Champollion, c'est pas seulement une langue ou même une écriture, c'est aussi l'histoire des pharaons qu'on avait totalement oublié avant lui. Il y a eu d'autres découvreurs d'écritures encore plus anciennes dont on parle jamais, ils sont beaucoup moins célèbres que Champollion, mais je pense à un Anglais, à Henry Creswick Rawlinson, qui a découvert par exemple et qui a compris l'écriture cunéiforme. Il y a aussi des écritures qu'on n'a jamais réussi à déchiffrer, je pense à l'île de Pâques. C'est assez extraordinaire l'opacité qu'il peut y avoir encore pour un certain nombre, un petit nombre d'entre elles, Anne-Marie Christin.
Oui, il y a différents types d'énigmes, des écritures. Ce qui est le plus remarquable, ce sont les écritures qu'on ne peut pas déchiffrer, faute d'avoir précisément, comme ça a été le cas dans les deux exemples que vous venez de citer, des textes en plusieurs langues. Cela dit, pour revenir à Champollion, moi, ce qui me frappe beaucoup, et pour rester dans la comparaison alphabet écriture hiérarchique que nous avons menée depuis le début, c'est que non seulement il faut, pour déchiffrer une écriture, posséder plusieurs langues, et que le texte d'abord soit en plusieurs langues, mais aussi il faut pouvoir passer outre sa propre culture. Parce que ce qu'a fait Champollion d'extraordinaire, c'est d'oser penser que des petites figures, des petites images, comme le sceau dont je parlais tout à l'heure, pouvaient avoir des valeurs phonétiques. Or, à son époque et pendant toute l'histoire de l'écriture alphabétique, et ça a continué ultérieurement, on a pensé que seule l'écriture alphabétique était phonétique. Donc on a découvert, grâce à Champollion, la richesse de l'écriture idéographique.
Merci Anne-Marie Christin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du numéro des cahiers de Science et Vie consacré aux origines de l'écriture et qui est en kiosque depuis le 10 octobre, un numéro auquel vous avez participé. Je rappelle que vous avez également dirigé le très beau livre « Histoire de l'écriture, de l'idéogramme au multimédia » publié en 2001 aux éditions Flammarion. À lire aussi dans la revue L'Histoire de septembre dernier, un dossier spécial « Lire et écrire » de Babylone à Jules Ferry. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires fiction suivants « Homo sapiens, le sacre de l'homme » de Jacques Malater en DVD chez France 2, Au temps de Charlemagne, de Jean-François Delassus, disponible en DVD chez Arte Vidéo, et Le secret des hiéroglyphes, de Ferdinand Fairfax, édité par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Philippe Jeanne et Gilles Gaillard. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 30e anniversaire de son élection, le pape Jean-Paul II.